Tout de suite, on va retrouver notre ami Daniel Haber, géopolitologue de son état, et nous allons en parler de géopolitique, bien sûr. Et cette semaine, vous êtes revenu avec Daniel Haber, mon cher Blaise, sur le G20 qui a eu lieu la semaine dernière.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour, bonjour chers amis.
Comme tous les lundis matins, dans Conversation, nous allons décrypter l'actualité géopolitique et la semaine dernière, un sujet dont nous n'avons pas trop parlé sur Radio Judaïka, c'est le G20. C'est un sujet relativement important. Alors pour commencer, Daniel Haber, que signifie un G20?
Alors, G20, c'est groupe de 20 pays, les pays les plus importants sur le plan économique, les grandes puissances économiques du monde. Vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais ailleurs non plus, parce que c'est un événement qui est lointain, ça se passait à New Delhi. On ne cernait pas très bien les objectifs, on a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, est-ce que ce groupe des 20 pays les plus puissants vont se saisir du problème le plus important aujourd'hui qui est la guerre en Ukraine? Pourquoi Xi Jinping n'y assiste pas? Alors on sait que Poutine, lui, n'y assiste pas parce qu'il a toujours peur de se faire arrêter, parce qu'il est sous le coup d'une condamnation de la Cour de justice internationale. Bon, alors revenons à l'essentiel. Les G20, c'est important parce que c'est les 20 plus grandes puissances économiques qui se réunissent pour essayer de gérer en commun les grandes crises, et en particulier les crises économiques. Le G20, sa première réunion, c'était à la fin de 2008, au moment où il y a la grande crise aux États-Unis, c'est la grande crise des subprimes qui a coûté cher au monde et qui d'ailleurs continue à faire ses effets, donc la plus grande crise économique, et donc les grandes puissances économiques se sont réunies. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour lutter contre cette crise? Donc c'était un vrai sujet, et d'ailleurs au fond ils ont plutôt bien marché, puisque au fond cette crise a été jugulée, il n'y a pas eu de désastre mondial comme il y a eu pour la crise de 2020, de 1929, qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Ce groupe du G20, c'est très intéressant, a été créé par un autre groupe tout aussi mystérieux, le G7. Alors le G7, c'est les pays riches et occidentaux, c'est-à-dire c'est les pays européens, c'est les États-Unis, c'est aussi le Japon. Ils sont sept. Il y avait la Russie à un moment donné, une fois qu'elle était débarrassée du soviétisme, mais on l'a exclue très vite parce qu'elle s'est comportée très mal en Géorgie puis en Ukraine. Donc on est revenu à G7, et ce G7 est né justement d'une crise économique, celle de 1973, le fameux choc pétrolier. Et donc là aussi, il fallait se concerter pour essayer de juguler les effets négatifs de la crise. Et à force de se réunir, le G7, ils ont découvert qu'ils étaient, bon, ils représentaient presque la moitié de la richesse du monde, mais seulement 10% de la population. Donc ils se sont dit, on est entre soi, mais on n'a aucune chance de résoudre les problèmes si on n'élargit pas le cercle. Alors c'est vrai que le G20, aujourd'hui, c'est 85% de la population mondiale et plus de la moitié de la richesse mondiale. Donc, c'est vraiment le groupe le plus important. Voilà un petit peu l'idée, c'est de la concertation pour juguler les crises. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et on voit bien que les observateurs ne sont pas au clair, puisqu'ils parlaient de la guerre en Ukraine, qui est un problème géopolitique et non pas un problème politique. Mais c'est bien la guerre en Ukraine qui entraîne le désastre économique actuel. Donc on voit bien la liaison.
Vous parlez de juguler les crises. Justement, il y a quelques crises qui se passent sur la planète Terre. Quels ont été les résultats de ce G20?
Alors, la crise, elle est mondiale, elle touche tout le monde. Vous savez qu'on parle de la crise même en Chine. Donc, les principaux résultats. Alors, on a quand même abordé la guerre en Ukraine, puisque c'est un facteur de déstabilisation de l'économie mondiale très important. Il y a eu un recul par rapport au dernier G20 qui était à Bali l'année dernière, au sens où on n'a pas mentionné spécifiquement l'agression russe. On voit que, alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Quand le G20 se réunit à Delhi, c'est Modi qui est à la manœuvre, et lui, il représente au fond tous les pays tiers, les pays émergents. Et au fond, ces pays tiers émergents, Mexique, Argentine, tout ça, ils sont touchés par la crise, nous reprochent, disons, aux grandes puissances d'être facteurs de désordre économique parce qu'ils se battent, parce qu'ils sont en confrontation, États-Unis, Chine, guerre en Ukraine. l'Ukraine. Et au fond, le reproche qui est fait à ces grandes puissances, c'est arrêtez de vous battre et libérez-nous de ces crises économiques qu'on n'a pas voulu et qui touche, comme toujours les crises, les pays les plus pauvres et dans chaque pays les plus pauvres de chaque population. Donc c'est un grand facteur d'inégalité. Donc on a un peu parlé de la guerre en Ukraine, mais on s'est concentré sur les résultats économiques et les résultats de cette concertation, ils sont assez étonnants et c'est une sorte de victoire des pays émergents qui s'adressent aux pays riches en disant petit 1, arrêtez de nous parler de ralentissement de la croissance auquel vous ne pouvez rien. Vous pouvez, il suffit que vous arrêtiez de vous battre et de vous confronter. Libérez-nous de vos problèmes d'ego, de géopolitique, je suis le plus gros, je suis le plus fort, et permettez à la croissance de se développer, parce qu'on en a besoin, nous les pays pauvres, encore plus que vous. Ça, c'était vraiment le premier essai, relancer la croissance. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est relancer la croissance sans renoncer à la lutte contre l'environnement, contre le changement climatique. Donc, intégrer le changement climatique à la croissance, une croissance durable, comme on dit. Bon, ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est arrêter de faire du protectionnisme, le libre-échange, ce qu'on appelle la globalisation. Finalement, c'était bon pour nous. Ça permettait de nous enrichir, ça a permis à la Chine de sortir de la misère. Et nous, on attend beaucoup de la globalisation pour sortir à notre tour des difficultés économiques. Donc, arrêtez de faire de ce protectionnisme. À nouveau, par exemple, l'Union européenne qui se bat contre les voitures électriques chinoises. C'est du protectionnisme, quelles que soient les raisons qui sont invoquées. Et donc, très curieusement, ce sont les pays pauvres qui disent aux pays riches qui étaient généralement plus enclins à la liberté des échanges, ce sont les pays les plus pauvres, les pays émergents, qui disent nous voulons conserver la globalisation. Et on se souvient qu'il y a quelques années, Xi Jinping au forum de Davos était le dernier à dire oui, la globalisation, il faut qu'elle reste. C'est très curieux. C'est très curieux. Donc ça, c'était le deuxième enseignement. Et le troisième, c'était une annonce faite par Biden de grands projets d'investissement.
Justement, vous parlez de ces grands projets d'investissement, des projets d'investissement qui impliquent Israël, Daniel Abert.
Oui, alors ça, c'est une annonce qui a été faite à l'occasion du G20, mais qui ne fait pas partie du G20. Vous savez que ce qui se passe dans les G20, il y a les réunions, puis après il y a les couloirs où on se rencontre, on se fait des petites réunions bilatérales, etc. Et on profite de l'attention focalisée sur Delhi à l'époque et de la présence de nombreux chefs d'État pour faire souvent des annonces qui ont une chance d'être reprises par la grande presse mondiale. Donc Biden a profité de ce voyage pour lancer une initiative tout à fait intéressante qu'on va un petit peu discuter maintenant, qu'il appelle le projet connectivité. Et qu'est-ce qu'il dit Biden? Il dit je propose que on relie l'Inde et l'Europe par des voies ferrées qui passeraient à la fois par l'Afrique de l'Est et par le Moyen-Orient. Et ici, deux pays clés au Moyen-Orient par lesquels cette connectivité doit se faire, l'Arabie Saoudite et Israël. Alors, l'Arabie Saoudite et Israël sont en train de se parler pour essayer de faire des accords d'Abraham, nouvelle méthode. On en est encore loin, mais on ne sait jamais. On peut avoir une surprise du jour au lendemain. Et donc, c'est un projet qui a évidemment été repris avec enthousiasme par Bibi, qui lui permet d'échapper aux problèmes qui l'assaillent tous les jours. Et ça démontre surtout que les Américains n'entendent pas laisser les initiatives à la Chine. La Chine, elle a une grande initiative qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, les Belt and Road Initiative, BRI, qui vise à relier la Chine et l'Europe à travers le Moyen-Orient et l'Afrique aussi. Donc au fond, c'est un contre-projet qui est au fond concocté par les États-Unis et l'Inde, pour faire barrage au fond à la seule initiative des Chinois. On voit que ainsi Biden rêve d'entraîner l'Inde définitivement dans le clan occidental, alors que l'Inde veut rester non alignée ou multi-alignée. Et on voit surtout que ça permet aux Américains de revenir au Moyen-Orient en disant nous ne sommes pas en retrait, nous sommes présents et voilà, nous proposons ce grand projet qui va en particulier aider Israël et l'Arabie Saoudite à se connecter et à se connecter à l'est avec l'Inde et à l'ouest avec l'Europe. Donc c'est un projet assez innovant. Alors évidemment, qui pose des problèmes, c'est qui va payer? Puisque au fond, les Américains ne sont pas directement concernés. Elle est bien loin, l'Amérique. Elle est une île par rapport à tout ce qui vient d'être décrit. Qui va payer? Est-ce qu'on a l'argent? On sait que le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'argent dont on aurait besoin pour ces grandes infrastructures, aussi bien pour le changement climatique, eh bien, on le met dans les armements, puisqu'il y a un réarmement mondial, et on le met aussi pour essayer de panser les plaies sociales dues à la crise économique. Alors voilà, donc on est. C'est un projet qui permet à Biden de reprendre l'initiative. Je ne sais pas comment ça sera accueilli aux États-Unis. Est-ce que ça passera le cap des élections américaines dont on sait qu'elles sont un trou noir? Voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question sur le G20, c'est à la fois quelque chose qui nous semble éloigné, mais en même temps qui peut entraîner des résultats concrets sur la gestion commune de notre planète sur le plan économique.
En une minute, Daniel Habert, si c'est possible, quel est l'intérêt de Joe Biden? Vous l'avez dit, les États-Unis sont loin de cette partie du monde. Quel est l'intérêt de Joe Biden d'annoncer cette nouvelle?
Non, mais l'intérêt, je les reprends parce que c'est très important. Un, c'est ne pas laisser l'initiative diplomatique mondiale aux mains des Chinois. Hein, depuis que nous nous parlons, on voit toujours que c'est Xi Jinping qui est là. Là, justement, Xi Jinping n'est pas venu. Donc, c'était l'occasion pour les Américains de devenir à nouveau le centre d'initiative. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, il s'agit de montrer, aussi à la terre entière que les Américains n'abandonnent pas ni l'Europe, ni l'Inde, ni surtout le Moyen-Orient, comme on le dit souvent pour se concentrer, soi-disant, à la lutte contre la Chine. Non, non, bah Biden entend bien montrer que les États-Unis restent la grande puissance mondiale impliquée partout. Et cette initiative, on verra ce qu'elle deviendra. En tout cas, elle marque la présence américaine, au moins sur le plan communication.
Merci Daniel Haber et à lundi prochain pour de nouvelles conversations.
À bientôt.